Salut à tous, c'est Woody, on est le 25 mai 1989 et vous écoutez Capsule Pod. Comme chaque mois, on va faire le tour de votre actualité pop culture et ce mois-ci, on va parler de Zénith qui se font méga blaster, du président Rony, du festival de Cannes, d'une madame bien servie, d'un groupe gothique qui redevient gothique, de la reine du rock anglais, d'une princesse qui n'a pas de bol et de trois filles panthères qui savent bondir sans un bruit. Vous êtes prêts à vous laisser porter par le programme ? C'est parti !
Vous ne connaîtriez pas un bon psychologue ?
Hey, dites-leur Atari !
Et on commence par la découverte en avant-première du prochain titre des Bitmap Brothers, Xenon 2. Et oui, les développeurs britanniques les plus cools du monde sont de retour après leurs deux premiers succès, Xenon 1er du nom et Speedball en 1988. Prévu si tout se passe bien pour ce mois-ci, Xenon 2 est un shoot'em up à scrolling vertical. Entendez par là qu'il s'agit d'un jeu de vaisseau vu de dessus, où il vous faudra défaire des hordes d'ennemis qui vous arriveront par le haut, le long d'un niveau qui défile automatiquement. L'histoire, s'il en faut une, parle d'une soif de domination d'extraterrestres violents appelés les Xénites, qui ont disséminé 5 bombes à travers l'espace-temps. À bord du Mega Blaster, il vous faudra retrouver chacune de ces bombes pour les détruire et sauver le cosmos. Vous devrez traverser donc 5 niveaux, chacun d'entre eux étant ponctué d'un combat de boss, une créature généralement de grande taille ayant fusionné avec une des bombes, le seul moyen de la désamorcer étant d'en venir à bout. Pour vous aider dans votre tâche, vous pourrez récupérer des power-ups permettant d'augmenter votre puissance de feu. Lors de votre traversée, vous serez amené à ramasser des orbes constituant la monnaie du jeu. À mi-parcours et à la fin de chaque niveau, un marchand extraterrestre vous proposera de dépenser votre butin pour obtenir jusqu'à 25 armes et accessoires divers et variés, et ce ne sera pas de trop pour venir à bout de ce jeu qui semble tout de même très difficile. Les graphismes de Mark Coleman sont somptueux. Il nous offre là des superbes sprites d'une vie organique dérangeante, inspirée de plantes et de bactéries, véritable écosystème grouillant de vagues de créatures mutantes qui vous assaillent. La critique de Tilt se dit à genoux devant le souci du détail apporté à l'écran, la taille des sprites et la qualité du scrolling. Le joueur peut d'ailleurs, s'il le souhaite, faire reculer le défilement en faisant marche arrière. Originalité assez notable, puisque le genre nous a habitués à subir ce défilement. Pour un jeu de nouveau intégralement programmé en assembleur, on s'attendait à ce genre de surprise, entre autres acrobaties techniques de la part des orfèvres en la matière. Sauf que cette fois, le mérite ne revient pas aux Bitmap Brothers, le jeu ayant été développé par le studio britannique The Assembly Line. Enfin, en ce qui concerne la bande-son, David Whittaker nous gratifie d'un thème qui rentrera à coup sûr dans les légendes. On retrouve ce qui pourra probablement être qualifié de meilleure adaptation d'un morceau commercial pour le jeu vidéo. Il s'agit en effet d'une reprise du morceau Mega Blast Hip Hop on Pressing 13 du groupe anglais Bomb the Bass, issu de l'album Into the Dragon sorti en 1987. Certains passages seraient d'ailleurs adaptés d'une composition pour le film Assaut d'un petit filou de l'épisode précédent de Capsule Pod, John Carpenter, et oui, encore lui. mois-ci, vous pourrez également vous essayer à une nouvelle adaptation du hit arcade Bad Dudes vs Dragon Ninja, cette fois sur Atari ST. Renommé sobrement Dragon Ninja, il s'agit à l'heure actuelle de la version la plus fidèle du titre de Data East sorti en 1988, un studio réputé pour des jeux tels que Karate Champ, Robocop ou encore Carnov. Jouable en solo ou à deux, vous incarnerez un duo de costauds, Blade et Striker, ayant pour mission de sauver le président Ronnie, kidnappé par un gang de ninjas. Vous disposerez de nombreuses techniques d'arts martiaux et de coups spéciaux à distance pour vous défaire de vos ennemis dans ce beat'em up à défilement horizontal. Vous aurez l'occasion de ramasser plusieurs power-up sur votre route, tels que des armes blanches ou des nunchaku, pour venir à bout des vilains les plus retors. Chaque fin de niveau vous opposera à un boss, comme souvent, le premier étant un personnage connu des productions Data East, puisqu'il s'agit de Karnov, le héros cracheur de feu du jeu éponyme. Cette adaptation sur Atari ST divise la critique. Alors que les graphismes et animations sont globalement appréciés, on a tendance à trouver les contrôles lents et raides. L'ambiance sonore ne fait pas non plus l'unanimité. Alors qu'il s'agit de la meilleure adaptation à date de la version arcade, certains iront même jusqu'à qualifier l'audio de crachouillis infâme. Cela étant, cela n'empêchera pas Tilt de lui attribuer un 17 sur 20 d'intérêt. Alors que l'on doit la bande-son originale à Azusa Hara et Hiroaki Yoshida, l'adaptation pour Atari ST est signée Jean Baudelot. Un personnage au parcours atypique, puisqu'il s'agit d'un compositeur n'ayant au départ aucun lien avec le jeu vidéo. Il est notamment connu pour son travail pour Michel Thor sur J'aime et Joe Dassin sur le morceau À toi. Pour le compte de Delphine Records, il travaillera sur des compositions pour Richard Klederman, entre autres, avant la création de Delphine Software qui lui donnera l'occasion de composer pour l'Atari ST et l'Amiga. Voici son travail sur la bande-son de Dragon Ninja, avec bruitage de bagarre inclus.
Les Américains sont incroyables, mais cette fois John Wayne ne s'éloignera pas dans le soleil couchant avec Grace Kelly.
C'est Gary Cooper, connard.
Assez plaisante.
Elle vient tout juste de se terminer, la 42e édition du Festival de Cannes s'est tenue du 11 au 23 mai dernier. Ayant pour président cette année Wim Wenders, un réalisateur allemand, il devait à l'origine être présidé par Francis Ford Coppola, mais ce dernier n'a pas honoré son engagement. On peut noter à la sélection officielle des films tels que Le Temps des Gitans d'Emir Kusturica ou encore Do the Right Thing de Spike Lee. Mais la Palme d'Or a été attribuée à Steven Soderbergh pour Sexe, Mensonges et Vidéo, une comédie dramatique mettant en scène Andy McDowell, James Spader et Peter Gallagher. Mais l'œuvre qui va nous intéresser aujourd'hui est le film d'ouverture du festival intitulé New York Stories. Il s'agit d'un film à sketch américain composé de trois courts-métrages d'une quarantaine de minutes et centré autour de la ville de New York. Le premier, nommé Life Lessons ou Apprentissage, se focalise sur le milieu artistique new-yorkais sous le prisme de Martin Scorsese. On y raconte l'histoire de Lionel Dobby, un peintre célèbre préparant une exposition en pleine rupture avec sa compagne assistante Paulette. Life Without Zoe, ou La vie sans Zoé, est quant à lui réalisé par Francis Ford Coppola. On y suit Zoé, une écolière de 12 ans qui vit dans un palace et son rapport avec la relation compliquée de ses parents. Enfin, Oedipus Rex, ou Le complot d'Oedipe, réalisé par Woody Allen. Ce dernier incarne Sheldon, un homme exaspéré par sa mère envahissante. Elle finit par disparaître mystérieusement pendant un spectacle de magie, mais son visage continue à apparaître dans le ciel de New York. Déjà en ce qui concerne la réalisation, on est devant trois grands noms du cinéma américain. Mais le casting est tout autant prestigieux puisqu'on y retrouve Steve Buscemi, Rosanna Arquette, Carol Bouquet, Nick Nolte ou encore Peter Gabriel. Les critiques furent en général positives pour les courts-métrages de Martin Scorsese et Woody Allen, mais le public n'a visiblement pas apprécié celui de Francis Ford Coppola, le trouvant inintéressant et dispensable. La bande-son est pour le coup assez variée, on va donc se faire plaisir avec un petit titre fabuleux qui a trouvé sa place, Like a Rolling Stone de Bob Dylan.
Dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal. How does it feel? How does it feel to have you on your own with no direction home, like a complete unknown? On the steeple and all the pretty people, they're all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal.
En dehors du festival de Cannes, vous ne trouverez malheureusement pas grand-chose à vous mettre sous la dent dans les salles obscures ce mois-ci. C'est pourquoi nous allons en profiter pour passer du grand au petit écran et parler d'une série diffusée depuis le début de ce mois sur M6, Madame est servie. Ayant pour titre original Who's the Boss, que l'on peut traduire par C'est qui le patron, Madame est servie est une sitcom créée par Martin Cohen et Blake Hunter, diffusée sur le réseau ABC. Les deux premières saisons ont déjà été diffusées sur Antenne 2 début 87, mais cette année, c'est M6 qui reprend les rênes. L'histoire suit l'ex-champion de baseball Tony Michelli, incarné par Tony Danza, un Américain d'origine italienne ayant perdu sa femme. Il quitte Brooklyn pour offrir une meilleure vie à sa fille Samantha. Il trouvera un travail en tant qu'homme à tout faire dans une belle maison du Connecticut, au service d'une riche femme d'affaires divorcée du nom d'Angela Bauer. Ils vivront en compagnie de son fils Jonathan et de sa mère, une séduisante quinquagénaire du nom de Mona Robinson. Le titre original de la série renvoie à l'inversion des rôles des deux principaux acteurs, où la vie active est portée par la femme, et le foyer et les enfants sont portés par l'homme. La série rentre directement en contradiction avec la vision standard de la famille atomique américaine, d'abord par le concept même de la série, mais aussi par le tempérament de Tony Michelli, à des années-lumière de l'idée qu'on pourrait se faire du stéréotype du macho italo-américain. Côté casting, on retrouve Judith Light dans le rôle d'Angela, Danny Pinto dans le rôle de Jonathan, l'excellente Alyssa Milano dans le rôle de Samantha, et surtout Catherine Elmond dans le rôle du meilleur personnage de tous les temps, Mona Robinson. Une série dérivée du nom de Charmed Lives a été tentée en 1986, avec notamment Fran Drescher au casting. On devait y suivre Joyce et Lorraine à San Francisco, et la série s'est arrêtée malheureusement après 3 épisodes. Il était également question d'un spin-off sur Mona en 87, une idée abandonnée en cours de route, la production craignant qu'un départ du personnage nuirait à la série principale. Mais cette année va voir le lancement d'une nouvelle série dérivée nommée Living Dolls. Elle y suivra Charlie Briscoe, une ancienne amie de Samantha venant de Brooklyn, avec Léa Rimini et Halle Berry. On croise les doigts pour que ce soit au niveau de Madame est servie. En attendant, on envoie le générique. There's a time for love and a time for living. Take a chance and face the wind. Open road and a road that's hidden. A brand new life around the bend. Lost a dream or two, found a trail, and at the end was you. There's a path you take and a path not taken. The choice is up to you, my friend. Nights are long, but you might awaken to a brand new life, brand new life. Comme d'habitude, à la moitié de notre émission, c'est l'heure du sponsor.
Voici Canyon. Canyon, une super barre aux céréales. Pour ceux qui font comme ça, ceux qui vivent comme ça. Canyon, une tendre moisson de céréales, de fruits et de bonnes choses. Plongée dans du délicieux chocolat au lait. Canyon, céréales et chocolat pour les mordus de la vie.
T'es à 10 sur ta guitare, alors qu'est-ce que tu fous, hein? Hein?
Tu
fais rien. Tant pis, là, il va jusqu'à 11.
Et c'est parti pour notre revue du top 50. Cette semaine, c'est Avalanche avec Johnny Johnny Come Home qui est en tête avec un classement chamboulé par l'arrivée d'un nombre conséquent d'entrées, tels que Florent Pagny avec Comme d'habitude, les Eagles avec Hotel California, étrangement, Bananarama et Lana Nini Nounou avec Help, Wet 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 avec Wishing I Was Lucky, Gold avec Diamant d'or, Alain Souchon avec Quand je serai KO, Frédéric Chateau avec Le malheur des uns et le bonheur des autres, et le meilleur pour la fin, Carlos avec le Tiroli Pimpon.
Salut bande de nazes, les Rock Awards sont dans lunettes. Noir pour nuit blanche, un méga show sur un plateau. Exclu Lulu sur A2 avec Coca-Cola. Rock Awards, la plus grande concentration de stars du rock ever avec Keith Richards, Lou Reed, David Bowie, Tina Turner, Bangles, Robert Palmer, lunettes spéciales Rock Awards, samedi 23h45.
Antenne 2, allumez la passion.
Ce mois-ci, nous allons revenir sur la sortie du 8e album studio du groupe britannique The Cure, intitulé Disintegration. Il s'agit d'un véritable renouveau d'un style devenu plus pop au fil des albums, et qui retrouve la noirceur nostalgique, sombre et sinistre des débuts du groupe. Suite au succès commercial du double album Kiss Me Kiss Me Kiss Me, le groupe a gagné en popularité. Robert Smith n'a pas supporté ce nouveau statut de pop star et a combiné une crise de la trentaine carabinée avec une dépression, causant une consommation importante de LSD. Il trouvait que l'essence du groupe s'était perdue et qu'il fallait revenir à leurs racines. Ajoutons à cela le comportement borderline du fondateur Lol Tolhurst, de moins en moins fiable en tournée à cause de ses abus d'alcool et de drogues narcotiques. Il se retrouve évincé du groupe et à peine crédité sur l'album. Ce dernier, s'inscrivant comme une suite à l'album Pornographie sorti en 82, a été très bien reçu de la critique. On le décrit comme poignant, claustrophobique et surprenant. Le titre Lullaby s'inscrit tout à fait dans cette description, au même titre que son clip réalisé par Tim Pope, leur réalisateur favori, ayant déjà une quinzaine de clips du groupe à son actif, et ayant travaillé avec Neil Young, Bonnie Tyler, les Bengals ou encore Amanda Palmer. Il y représente le chanteur visiblement paralysé par l'angoisse dans un lit, assailli par des visions de personnages inquiétants qu'il observe de toutes parts. La représentation de l'araignée y est omniprésente, notamment par le rictus d'un personnage figé au plafond, ou encore le fait que les membres du groupe se retrouvent progressivement recouverts de toile. On écoute ça tout de suite.
Being eaten by a thousand million children fully whole. invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me.
Les Britanniques de Queen sont de retour avec leur 13e album studio, The Miracle. Hissé immédiatement à sa sortie à la première place des charts anglais, cet album très attendu fait suite à une longue période de 3 ans sans nouvelles du groupe. Alors que les carrières solo des différents membres du groupe battent leur plein, notamment pour Freddie Mercury après son album Mr. Bad Guy de 1985, et la chanson Barcelona avec la cantatrice Montserrat Caballé l'année dernière pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Cet album studio sonne comme une bonne nouvelle, même si le groupe botte toujours en touche au sujet d'éventuelles dates de concert. On commence à se demander si tout va bien chez nos Britanniques préférés. En tout cas, ça n'impacte pas la qualité de leurs titres, mais leur sonorité pop, rock et metal, on notera notamment le morceau éponyme décrit par le groupe comme étant une des chansons les plus complexes qu'ils aient écrites depuis ces dernières années. On s'attardera sur le morceau I Want It All, une chanson sur l'état sentimental de Brian May après sa rupture avec sa femme Christine Mullen et sa nouvelle relation avec l'actrice Anita Dobson. Une composition quant à elle simple et percutante, décrite par la critique comme étant un modèle absolu de chansons pop-rock pour quiconque voudrait en écrire. Le clip montre le groupe jouant le morceau au studio Elstree de Londres. On y voit notamment Freddie Mercury pour la première fois portant une glorieuse barbe, après avoir rasé son iconique moustache lors d'un tournage pour le morceau The Great Pretender en 1987. On écoute ça tout de suite.
I'm not afraid to die. amusez-vous bien.
Bon, je sais, je vous avais promis un dossier sur sa cartoon le mois dernier. Mais mon petit doigt me dit que la formule de l'émission va changer très prochainement. Ce serait dommage de rater les détails croustillants sur le contenu de l'émission, alors je me garde le sujet pour un prochain épisode. On va tout de même s'intéresser à deux excellents dessins animés diffusés ce mois-ci, le premier étant Princesse Sarah. Princesse Sarah est un animé japonais de 1985 créé par Ryuzo Nakanishi, assez fidèlement adapté du roman de Frances Hodgson Burnett, intitulé La Petite Princesse, et datant de 1888. Ce n'est pas la première fois que vous avez droit au dessin animé chez nous, puisque les 46 épisodes ont été rediffusés plusieurs fois depuis 1987. On y raconte l'histoire de Sarah Crewe, dans l'Angleterre de 1885. Sa maman décédée depuis qu'elle est bébé, et alors âgée de 8 ans, elle est placée par son père très fortuné dans un petit pensionnat de jeunes filles, afin d'y recevoir la meilleure éducation. Il repart alors en Inde gérer son exploitation de mine de diamants. Au départ traitée comme une petite princesse en raison de sa fortune, elle apprendra le jour de son 9e anniversaire que son père est décédé. Alors sans le sou, sa vie va basculer. La directrice Mademoiselle Mangin va la reléguer au rang de servante et ne cessera plus de la brimer et de la rabaisser. Elle sera également maltraitée par ses anciennes camarades de classe, dont la cruelle et riche Lavinia qui la déteste depuis son arrivée. On suivra la petite fille qui restera irrémédiablement gentille et pleine d'empathie malgré sa traversée des enfers. Le générique est chanté par Christina D'Avena, une chanteuse et actrice italienne qui se paye le luxe de l'interpréter pour sa version italienne et française. C'est une véritable star des génériques de programmes pour enfants en Italie, puisqu'on peut l'entendre sur un nombre colossal de titres, souvent sur des morceaux originaux pour des dessins animés tels que Cat's Eyes, Les Schtroumpfs, Crimi Merveilleuse Crimi, Lucie l'Amour et Rock'n'Roll, Les Snorky, Jeanne et Serge, Amy Magic, Mon Petit Poney, J'aime les hologrammes, Cynthia ou le rythme de la vie, et j'en ai même pas gratté la moitié. Je vous laisse découvrir son charmant accent italien sur le générique de Princesse Sarah. ce moment, vous aurez le plaisir de suivre le dessin animé signé Cat's Eyes dans l'émission Amuse 3 sur FR3. Diffusé depuis 1986 chez nous, il s'agit d'une adaptation du manga Cat's Eye, au singulier, de Tsukasa Ojo, paru dans le magazine Weekly Shonen Jump entre 1981 et 1985. Ce dernier est aujourd'hui auteur du manga City Hunter depuis 1985, adapté en animé et diffusé au Japon depuis avril 1987. L'histoire tourne autour de trois jeunes femmes séduisantes, les sœurs Shamad, composées de Cilia, l'aînée réfléchie, Alex la Benjamin, pro de la mécanique, et Tam la romantique. Alors qu'elles tiennent un café, le Cat's Eyes, à la nuit tombée, elles se transforment en voleuses d'art. Cela étant, elles ne volent pas n'importe quoi puisqu'elles ne font que subtiliser des pièces ayant appartenu à Michael Heinz, un artiste allemand qui n'est autre que leur père, disparu mystérieusement depuis plusieurs années. Elles espèrent éclaircir le mystère de sa disparition en réunissant sa collection. Elles sont opposées à l'inspecteur Quentin Dupuis, déterminé à attraper les Cat's Eyes, mais ignorant du fait qu'il est fiancé à l'une d'entre elles, Tamara. Bien que le manga eût paru dans le Weekly Shonen Jump, un magazine destiné aux adolescents, l'animé et surtout son générique contiennent des plans assez osés qui ont été censurés pour notre jeunesse française. Le générique original montre les héroïnes dans de simples justaucorps prendre des positions très sensuelles. Lors de la diffusion de la première saison chez nous, un autre générique a été monté avec de simples extraits du dessin animé. La chanson qu'on entend dans ce générique est interprétée par Isabelle Guihard, une actrice de télévision dont c'est le seul travail connu, et c'est bien dommage. À la composition, on retrouve une collaboration connue, de Bernard Rissol et de Cyril de Turckheim, oui, le cousin de Charlotte, duo que l'on a déjà vu à l'œuvre pour les génériques de Moi Renard en 1986, ou encore de Denver le dernier dinosaure. On se retrouve juste après.
De dernier journal ce soir, en raison de la grève, bien sûr. C'est donc après cette émission de jazz que se terminera notre programme Bonsoir.
Et voilà, l'épisode de ce mois-ci est terminé. Quoi de beau à la télé aujourd'hui ? vous aurez le choix entre télé-shopping avec Pierre Belmar et Marie Scorson, Club Téléachat ou M6 Boutique pour vous occuper ce matin. Super! Ou sinon, il y a toujours Matin Bonheur avec Thierry Beccaro en attendant la fête à la maison à 11h25 sur Antenne 2. En fin d'après-midi, c'est des chiffres et des lettres avec Patrice Laffont si vous voulez esquiver Santa Barbara sur TF1. Ce soir, ce sera au choix, le Toubib prend du galon sur la 6 ou encore la Maîtresse du Désir sur la 5. Aucune idée ce que ça raconte, mais j'aimerais plutôt que mon décodeur ne déconne pas pour finir la soirée sur Police Academy 2 sur Canal. Quoi qu'il en soit, merci encore à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actu. Et qui sait, si quelqu'un tombe là-dessus dans 30 ans, il aura peut-être envie de le partager à ses potes, ce serait marrant. Allez, salut !